France Culture.
Le journal vous est présenté par Mathilde Romagnan.
Bonjour à toutes et à tous et bon réveil sur France Culture. Il est 8h. L'accord signé à la COP30 sur le climat fait des déçus. Les ONG environnementales déplorent l'absence de mesures sur les énergies fossiles, vous l'entendrez. Le chef d'état-major des armées a toute ma confiance, dit Emmanuel Macron après les propos du général Mandon sur la menace d'une guerre en Europe. Et puis, entre hausse des féminicides et coupes budgétaires dans les associations, pas facile de garder le moral pour les associations féministes qui manifestaient hier dans toute la France. Le président brésilien Lula espérait une COP de l'action, mais hier à Belém, la COP30 s'est terminée sans susciter d'enthousiasme, sans avancée sur les énergies fossiles, mais avec tout de même la signature d'un texte entre 194 pays, sans les États-Unis. Les petits pays insulaires parlent d'un accord imparfait mais nécessaire. L'Inde a salué un texte significatif. Les ONG de défense de l'environnement sont déçues, mais Gaïa Fèvre, membre du réseau Action Climat, essaie de voir le côté positif. L'idée d'une feuille de route sur la sortie des énergies fossiles n'est pas abandonnée.
Lula a mis beaucoup de pression politique pour qu'on arrive à traiter du sujet. On n'a pas réussi à avoir la fin des énergies fossiles à proprement dit dans le texte. Le président de la COP30 a pris un engagement, il traiterait du sujet, il le remettrait sur la table pour la prochaine COP. À côté de ça, il y a également la Colombie qui a lancé une initiative avec un événement qui se tiendra en avril pour discuter avec les pays les plus ambitieux de la sortie juste et ordonnée et financée des énergies fossiles. C'est impossible de demander à tous les pays d'arrêter, que ce soit de produire ou de consommer des énergies fossiles, mais par contre, on doit s'engager à concrétiser la mise en œuvre de la sortie des énergies fossiles, engagement qu'on avait pris à la COP28 à Dubaï. Donc maintenant, il nous faut un plan concret et il faut s'attaquer aux freins, c'est-à-dire essentiellement les aspects financiers pour s'assurer qu'on sort des énergies fossiles de manière juste.
Gaïa Fèvre du réseau Action Climat au micro France Culture de Véronique Rebérotte. Une vingtaine de personnes ont été tuées hier dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. L'État hébreu affirme avoir ciblé des membres haut placés du Hamas dans ces bombardements. Depuis plusieurs semaines, Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer la trêve entrée en vigueur le 10 octobre dernier. Une réunion est prévue aujourd'hui à Genève en Suisse entre négociateurs américains, européens et ukrainiens autour du plan de paix proposé par les États-Unis, un document que refuse de signer l'Ukraine puisqu'il prévoit de céder une partie de ses territoires à la Russie. Face aux critiques des alliés de Kiev et de 3 sénateurs américains, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio l'assure, ce plan a bien été rédigé par les États-Unis et ne répond pas uniquement aux exigences de Moscou. Depuis le sommet du G20 en Afrique du Sud, les alliés européens de l'Ukraine, dont Emmanuel Macron, suivent la situation de près. Le président français a par ailleurs réagi au propos polémiques du chef d'état-major des armées. Mardi dernier, le général Fabien Mandon a estimé que la France devait, je cite, « accepter de perdre ses enfants » face à la guerre en Ukraine et à un contexte international tendu. Des propos sortis de leur contexte, selon le président français.
Il n'y a qu'un chef des armées en France, c'est le président de la République. Et ensuite, un lien et un commandement qui se fait avec le chef d'état-major des armées, qui a toute ma confiance. Et qui a tenu un discours qui était beaucoup plus élaboré que la phrase qu'on en a sortie. Je vois assez bien de quoi il peut s'agir, sortir une phrase et la sortir de son contexte pour faire peur. Je vois aussi les surréactions qu'il y a pu avoir, et je comprends surtout que ça a été détourné par beaucoup de gens qui ont un autre agenda. Mais moi, je ne céderai pas à l'esprit de défaite, au déclinisme ambiant. Je pense que la France doit continuer d'être une nation forte, avec une armée forte, mais avec aussi une capacité de sursaut collective. C'est-à-dire que nous sommes tous, dans le moment que nous vivons, face aux risques contemporains, avec la nécessité d'être conscients sur ces risques géopolitiques et de nous tenir ensemble.
Et hier soir dans l'émission C'est à vous sur France 5, le général Fabien Mandon a assuré que le rôle de cette intervention était d'alerter et de se préparer, mais pas d'inquiéter, a dit le chef d'état-major des armées. Au moins 50 000 personnes ont défilé hier à Paris contre les violences faites aux femmes, selon les organisateurs, 17 000 selon la police. Manifestation dans une dizaine d'autres villes de France à l'appel du collectif Grève Féministe, qui demande plus de moyens pour lutter contre ces violences qui sont en hausse. L'association Nous Toutes dénombre 149 féminicides cette année, dont 4 sur la seule journée de jeudi. Et en cette période de coupes budgétaires, les militantes féministes sont aussi confrontées à la baisse des subventions des associations de terrain. Difficile pour elles de garder le moral dans ces conditions. Lou Momège.
Lors de moments médiatiques comme MeToo ou les procès de Mazan, Joanne, 28 ans, a beau suivre de près la lutte féministe, et bien elle avoue devoir parfois prendre un peu de distance.
Couper un peu plus avec les réseaux sociaux ou les comptes que je peux suivre, enfin l'actualité en fait, et peut-être des fois lire moins de choses qui parlent de féminisme ou qui parlent des podcasts ou des lectures qui sont un peu plus engagées. C'est pour pas s'épuiser, je pense.
Plus difficile en revanche de couper quand on fait partie d'une structure militante, c'est le cas de Maude qui distribue des pancartes pour la Fondation des Femmes.
Allez-y.
Elle a pris l'habitude de se confier à ses collègues ou à ses proches.
À force de tout le temps travailler sur des sujets qui sont très durs, c'est dur de prendre du recul. Et particulièrement en tant que femme, en fait, c'est difficile parce que bah, juste quand tu vois toutes les statistiques, tu te dis quand est-ce que ça va me tomber dessus, quand est-ce que c'est mon tour.
D'autres, de toute façon, n'ont pas le choix que de tenir.
Mère militante, travailleuse aussi, à temps plein, au CDI.
Triple casquette pour Agnès Wadi, coprésidente du mouvement des mères isolées.
On ressent la fatigue militante, mais on a la rage au ventre et on est là. C'est trop important, en fait, pour nous. De continuer à se battre, d'offrir une vie meilleure à nos enfants. C'est pas un jour par an, c'est tous les jours de l'année qu'on se bat en fait.
Et même si une militante a besoin de faire une pause à un moment, la lutte reste assurée, résume Capucine.
Je pense qu'on est quand même un groupe qui est assez uni et que si l'une d'entre nous a besoin de détacher, le groupe va toujours poursuivre les actions en faveur des droits des femmes.
D'où l'importance pour ces militantes de se retrouver lors de grandes manifestations comme celle d'hier, un moment de sororité qui les motive de plus belle.
Reportage à Paris de Lou Momège. Hier à Marseille, environ 6000 personnes étaient rassemblées selon les autorités pour une marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi, assassiné il y a 10 jours, il avait 20 ans. Il était le frère du militant anti-drogue Amine Kessassi. Il faut que la paix revienne dans nos quartiers, a-t-il déclaré lors de cette manifestation. On en parle plus en détail dans le journal de 9h et on apprend à l'instant le décès du résistant Robert Birnbaum. Il avait 99 ans, c'est Emmanuel Macron qui l'annonce. Il avait porté au plus haut la lutte pour la liberté, l'égalité et la fraternité, dit le chef de l'État. Le temps, de la pluie, parfois de la neige, sauf dans le quart sud-est et la Corse. Le froid s'installe sur le territoire avec des maximales entre 3 et 16 degrés. 7 départements sont en vigilance orange pour neige et verglas.